écologue et il travaille donc au laboratoire maladies infectieuses et vecteurs écologie, génétique, évolution et contrôle qui est à Montpellier. Mais il a aussi d'autres fonctions, c'est pour ça qu'on le verra intervenir ailleurs. Et surtout, il a été un des deux responsables d'un rapport qui est sorti en 2010, si je me souviens bien, Jean-François.
2010 pour l'un et 2012
ouais.
pour l'autre.
Oui. Sur changement climatique et santé, je ne me souviens plus exactement le titre du colloque, du rapport, en France. Donc il a une bonne vision générale de ce qui se passe en matière de santé. Je te laisse la parole, tu as une demi-heure.
D'accord. D'accord, donc 30 minutes au total, c'est ça?
Oui, question comprise.
Oui, donc,
oui.
Je vais essayer d'aller vite. Donc, tout d'abord, bonjour. Merci à Sylvie et Chantal de m'avoir invité ici. Donc, je ne suis pas à proprement parler un spécialiste de changement climatique et santé, en particulier de maladies infectieuses, mais parce que je suis écologiste et que les conditions météorologiques et l'évolution du climat est une composante de ce qu'on appelle la niche écologique. A fortiori, on est obligé de s'y intéresser. C'est un des multiples paramètres de cette niche écologique. C'est ce que je vais discuter avec vous ici aujourd'hui. Et j'ai repris un titre, finalement, en a-t-on trop dit ou pas assez, qui est exactement le titre qu'on m'a demandé de faire il y a approximativement un an et demi à l'Académie de médecine sur l'invitation d'un collègue et ami, Bernard Xwingedo. Donc le titre est provocateur, mais ma communication va l'être tout autant. À la fois à mon âge et à mon niveau, on peut se le permettre. Et donc, je commence par ce remarquable dessin, finalement, un insecte que l'on peut suspecter être vecteur de quelque chose, d'un plasmodium responsable du paludisme, rencontre un autre à Paris et lui demande à Paris depuis longtemps, mais depuis les grosses chaleurs. Mais finalement, j'utilise aussi ce même dessin lorsque je fais une conférence sur les problèmes de globalisation, de changements globaux, et en particulier celui du transport aérien à large échelle. Donc je crois que c'est à la fois une très bonne introduction au thème, mais c'en est aussi finalement sa conclusion. Alors, initialement, vous trouverez à partir, alors je vais vous donner une date, vous trouverez ce genre de schéma du changement climatique vers ses impacts dans une vision absolument, qui est une vision, on dit en anglais, top-down, absolument linéaire du changement climatique vers ses impacts. Et cette vision a été très influencée à l'OMS, vous voyez ces petits symboles que j'utilise, notamment par les climatologues et physiciens du climat. Donc, c'est une autre expression du schéma précédent, du changement climatique vers ses impacts. Donc, première période, à peu près 1985-1995, et qui va alimenter énormément de recherches sur le thème, dans cette vision absolument linéaire, où on cherche finalement à tout prix des impacts, et souvent des impacts négatifs du changement climatique sur la santé, sur l'agriculture, sur la biodiversité. Hier, je discutais avec une journaliste qui me demandait de lui expliquer les effets du changement climatique sur l'apparition de cas de dengue et de chikungunya dans le sud de la France. Je trouve que dans cette question d'un journaliste, il y a bien entendu la question, mais il y a aussi la réponse. Et lui expliquer qu'ensuite que le changement climatique n'a peut-être pas grand-chose à voir avec l'apparition de cas de chikungunya, de dengue dans le sud de la France, ou qu'au moins il y a d'autres paramètres plus importants qui sont impliqués, ça devient difficile. Deuxième période, 1995-2005, c'est un schéma qui ressemble à celui présenté initialement par Sylvie, où vous voyez, il y a bien le changement climatique qui est en amont, qui est présenté en amont, toujours dans cette vision linéaire et ses impacts, mais on s'aperçoit de ce qu'on appelle des feedbacks, et puis des problèmes d'adaptation au contexte du changement climatique. Et donc, cette vision a été beaucoup inspirée. J'ai commencé à y travailler, bien entendu, avec d'autres personnes, dans le cadre de programmes internationaux. Ici, le programme Earth System Science Partnership, qui est un programme international des Nations Unies, qui regroupe les quatre grands programmes scientifiques, Diversitas, World Change Research Program, IGBP, International Geosphere Biosphere Programme, et le quatrième, le programme en sciences humaines et sociales. Donc, deuxième période qui va commencer à jeter un certain doute, bah, finalement, sur les résultats et sur les vraies conséquences du changement climatique sur un certain... Sur certains possibles impacts, et en particulier ici sur la santé. Et puis celui-ci, c'est celui qu'on retient aujourd'hui, c'est le dernier. C'est-à-dire que bah, les choses se compliquent. Le changement climatique est positionné non plus comme un changement principal et quasiment unique vers ses impacts, mais le changement climatique, vous voyez, est une composante et un paramètre de changements environnementaux globaux, hein, ce qu'on appelle les GEC. Ces paramètres, ces différents changements vont interférer les uns les autres pour engendrer des conséquences ou pas. Donc trois phases, et ces trois phases, avec des dates approximatives, vont alimenter et très différemment finalement la recherche qui va être produite. C'est une autre forme, vous voyez, pour présenter le schéma précédent, et ce sont donc les schémas que vous voyez aujourd'hui aussi à l'Organisation mondiale de la santé, mais dans les programmes des Nations unies. Alors, vous connaissez tous ce genre de cartes. Donc ici, c'est Bill Clinton, ces cartes qui ont été... Gore, pardon. Non, c'est pas Al Gore, excusez-moi, c'est pas ni Al Gore, c'est Bill Gates, exactement. Alors, ces cartes, tout en rouge... produite à partir des années 85 et 90, ici pour le paludisme, correspondent à cette première période où on analyse les conséquences et les impacts du changement climatique en tenant compte essentiellement d'un ou deux paramètres qui sont la température et la pluviométrie. À partir et issu d'un papier produit par Mark Woolhouse et Sonia Gautech-Sequeira, hein, dans Emerging Infectious Diseases, que nous avons repris dans un rapport traduit en français et complété, en analysant l'émergence et la réémergence de 177 agents infectieux apparus ces 30 à 40 dernières années, ces chercheurs se sont posé la question à savoir quel peut être le grand déterminant principal, s'il existe, de l'émergence et la résurgence de ces agents infectieux, et puis les a ensuite classés, hein, de 1 à 10, en calculant le nombre d'occurrences, c'est-à-dire le nombre de fois où un paramètre intervient pour expliquer l'émergence de maladies infectieuses dans le monde. Donc on s'aperçoit ici, sur la base de ce tableau, que le premier paramètre à être responsable de l'émergence, résurgence d'agents infectieux dans une vision globale, hein, bien entendu, dans le monde, est le changement d'usage des sols, les pratiques agricoles et ce qu'on appelle les procédés liés. Et puis le changement climatique apparaît être finalement le dernier d'entre eux, placé au dixième rang, avec des exemples, hein, dont nous disposons, mais finalement ils sont très peu nombreux, parce qu'à chaque fois on se pose la question d'autres covariables, d'autres variables qui pourraient intervenir pour les influencer. C'est le cas de l'apparition du chikungunya dans le sud de la France, ou de la dengue, hein, par ailleurs. Le paludisme, pour lequel nous avons finalement des résultats assez sérieux pour montrer une influence du changement climatique, notamment en Afrique de l'Est, de la dengue en Asie du Sud-Est, de la leishmaniose ici dans le sud européen, où nous suspectons un front de remontée de leurs insectes vecteurs, hein, qui sont ce qu'on appelle des phlébotomes. On remarque ce même front dans le sud de la France et dans le nord de l'Italie. Donc ce sont des éléments contribuant à un faisceau de présomption pour indiquer que nous aurons ou nous pouvons voir un front de progression des vecteurs responsables de leishmaniose dans le sud européen. Si on prend l'exemple, mais qui va être, je pense, développé beaucoup plus par Patrick, où est Patrick ? Il est parti téléphoner, je suppose. Vous remarquerez qu'il est absent. Si l'on prend et on s'intéresse au cycle de vie d'une bactérie marine, ici qui est Vibrio cholerae, d'accord ? Vibrio cholerae, on sait aujourd'hui qu'il est une bactérie qui vit en commensalisme ou en symbiose avec des petits animalcules du milieu marin-côtier, hein, des petits copépodes, ce sont les petites bestioles que l'on donne à manger aux poissons rouges, les petites bestioles séchées. Et ben ces Vibrio, ces bactéries vivent en association. Et puis à travers un phénomène de cascade et d'effet en cascade, et notamment commandée par des conditions bioclimatiques, hein, des modifications de température de la surface, maritime en particulier, du rayonnement solaire, de la pluviométrie, de modifications du pH. Vous allez avoir finalement une série d'événements en cascade qui vont entraîner un bloom zooplanctonique, phytoplanctonique d'abord, un bloom zooplanctonique et puis une augmentation de la charge portée dans l'environnement de ces bactéries marines. Et donc, du même coup, dans cette chaîne de réaction, une augmentation des cas et d'épidémies de choléra dans les populations riveraines. C'est exactement ce qui se passe actuellement au Bangladesh et en Inde, mais c'est aussi ce qui se passe finalement sur les côtes sénégalaises. Et donc, l'une des premières à avoir démontré à la fois un lien entre le climat, la variabilité climatique et le changement climatique, est Rita Colwell, à travers un programme de la NSF américaine qui s'appelait Biocomplexity, où elle va commencer avec son équipe et dans le cadre de collaboration à montrer une dynamique de cas de choléra ici exprimée en courbe rouge par rapport à une modification et une variation de la température de surface de l'eau des systèmes côtiers, ici avec une image où vous voyez le développement de bloom algaux qui vont conditionner dans une chaîne de réaction finalement le développement épidémique donc de cas à Vibrio cholerae dans les populations humaines. Vous connaissez tous ce genre de résultats, hein, avec des booms finalement de cas de diarrhée ici dus à la fois à des virus mais aussi des bactéries d'origine oportée et puis qui sont très très liés avec une augmentation et un changement au cours du temps de la température. Donc ça c'est une évolution régulière, une évolution normale que nous observons pour énormément d'agents infectieux, notamment du milieu marin ou du milieu dulsacquicole. Donc je reviens un moment sur ce travail de Rita Colwell. Alors j'ai évité de vous présenter des analyses de séries temporelles qui sont toujours très très difficiles à comprendre avec des techniques plus ou moins sophistiquées, qui sont d'ailleurs pour la personne qui présente aussi très très difficiles à présenter. En vous présentant tout de même ce qui se passe à Calcutta et à Madlab, hein, dans le golfe du Bengale, dans le temps. Donc chaque couleur représente en noir les cas de choléra. Et vous voyez un phénomène à la fois saisonnier et très régulier dans le temps qui est calqué avec un ensemble de paramètres. Ici, nous l'avons dit, la température de surface de l'eau, la chlorophylle et la concentration en chlorophylle, la pluviométrie correspondante aux différents paramètres dans ce que j'appellerais cette chaîne de réaction. Donc de là, ça nous permet de produire des modèles early warning system, hein, c'est ce que nous avons fait pour le Sénégal il n'y a pas très longtemps, dans cette chaîne de réaction, avec différents paramètres et drivers en anglais influençant la dynamique de cas, d'alerter et d'informer les pouvoirs publics d'un risque à 15 jours, à 3 semaines près. Je pense que Serge développera peut-être demain cet aspect plus à fond. Donc bien entendu, pour faire ce genre de choses, nous avons besoin d'un temps de surveillance extrêmement long, donc ce sera la première recommandation. Le meilleur moyen de démontrer qu'il n'y a pas d'effet au long terme d'un phénomène en particulier, celui du changement climatique, la meilleure chose, c'est de ne pas y travailler et de faire une recherche au court terme. Alors, les recherches sur le choléra en particulier ont montré qu'il y avait une correspondance, une très forte corrélation entre les dynamiques de cas de choléra ici au Bangladesh, avec des indicateurs globaux, ici le Southern Oscillation Index, je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous voyez avec l'existence de ce qu'on appelle un contraste de phase, lorsque SOI est élevé dans le golfe du Bengale, les cas de choléra sont moindres que son inverse, avec une dynamique assez corrélée. Alors, je pense que des agents maritimes, des virus, des bactéries eau portée en particulier, donc ils ne vont pas nécessairement avoir un hôte pour les abriter, hein, c'est peut-être des virus de l'herpès, de l'huître, sont, et on le sait aujourd'hui, très thermosensibles avec une mortalité élevée. Le virus de la polio, par exemple, qui est pathogène pour l'humain, présente un optimum de réplication à 37 degrés et peut produire des mutants chauds avec une virulence accrue. Donc ces agents en particulier peuvent être réactivés à la faveur d'une augmentation de la température moyenne environnementale. Le virus de la dengue et son vecteur Aedes, son incubation intrinsèque va passer de 12 à 7 jours quand la température passe de 30 degrés à 35 degrés. Alors ce genre d'éléments que j'appellerais de la physiologie des interactions, on manque aujourd'hui considérablement de ce genre de résultats. Alors, je vais peut-être passer ici parce qu'il y aura des exemples certainement de données. Alors vous connaissez tous le travail qui a été fait en Afrique sur ce qu'on appelle le programme ARMA, hein, sur le suivi du paludisme et des conditions propices au paludisme en Afrique. Donc tout d'abord, les travaux ont tenté de modéliser la distribution des insectes vecteurs, donc des anopheles du paludisme, en se servant essentiellement de deux variables, la précipitation et la température. Et vous voyez ici combien, pour trois paramètres, la durée de la sporogonie, c'est-à-dire la durée pour le plasmodium pour fabriquer, former des stades infestants, et aussi ici la survie du vecteur en fonction à chaque fois de la température. Vous voyez l'évolution de ces traits en fonction de la température. Et donc vous n'avez pas obligatoirement des courbes type en cloche, de courbes de Gauss, mais des formes de ce type. Donc vous imaginez un déplacement de température de 3-4 degrés dans des régions africaines. Donc c'est ce que j'ai produit ici, hein, pour simplifier. Vous passez de cette zone-là à des autres zones-là avec une augmentation de 4 à 5 degrés. Vous allez rencontrer pour certains des paramètres. Ici, ne sont étudiés que la température, mais on pourrait étudier la pluviométrie. On pourrait étudier la capacité des enzymes à assurer leurs actions. On pourrait encore utiliser d'autres traits, bien entendu, et s'apercevoir qu'avec une augmentation de température, certains traits en particulier, notamment la durée de la sporogonie, baisse de manière très drastique, que le cycle parasitaire ne peut plus se produire. Donc du coup, finalement, avec une augmentation de la température, et on le sait finalement en termes écologiques, avec une augmentation de la température en Afrique, on peut assister à une sévère, une drastique, ou une plus ou moins grande importance de la disparition de cas de paludisme. Tout simplement parce que le cycle parasitaire ne peut pas s'exercer dans un cadre multifactoriel avec des paramètres moteurs et essentiels pour la transmission du cycle parasitaire. Alors ça a complètement été oublié à l'origine, puisqu'on a paramétré sur deux paramètres, uniquement la température et la pluviométrie. Passer sur ça, donc... Pour rapidement vous expliquer ce qu'est la niche écologique, hein, vous voyez ici un ensemble d'espèces d'oiseaux avec des becs de longueurs différentes et qui pourront aller fourrager, s'alimenter en fonction de la longueur du bec, bien entendu à bec plus long, capacité d'aller fouiner et forager plus profondément dans le sable ici et donc de récupérer des ressources ici que les oiseaux à bec plus ou moins long, ne pourront pas faire. Donc ici, vous avez une illustration de ce que peut être la niche écologique. Donc la niche écologique, c'est un système multifactoriel. Il n'y a pas uniquement que la température, il n'y a pas uniquement que la pluviométrie. Vous voyez ici, pour les oiseaux, il peut y avoir la longueur du bec pour accéder à la ressource. Et donc on fabrique avec ces multiparamètres et on définit une niche, qui est une niche optimale de l'espèce à survivre, à s'adapter et à évoluer dans ce contexte. Le dernier papier que je connais, hein, je vous donne les références à propos du paludisme, s'intéresse et utilise ces modèles de niche écologique en utilisant 19 variables bioclimatiques ou édaphiques, ainsi que 6 variables écologiques et biologiques. Vous pouvez intégrer, bien entendu, le maximum de variables en évitant, bien entendu, des phénomènes d'autocorrélation, on ne va pas entrer dans le domaine statistique, ou de covariation et de duplication d'informations, bien entendu, hein, vous devez y faire... Oui. Sol. Conditions du sol, hein, qui vont aussi déterminer les propriétés de l'eau et la présence de vecteurs, de certains vecteurs ou pas. Hein, d'accord. Et donc, à partir de là, c'est un papier publié, vous voyez, dans PLOS ONE, je ne me rappelle plus, je ne sais pas si j'ai mis la date, 2007, hein, relativement récent, qui vous redonne des cartes de distribution à la lumière de cette dimension multifactorielle du problème, avec un résultat, mais un résultat, je peux vous assurer, saisissant pour un épidémiologiste, pour un spécialiste de santé publique. La variable la plus explicative pour expliquer la distribution actuelle du paludisme en Afrique est la densité humaine. C'est quand même assez saisissant pour les gens qui ont une culture de santé publique de s'apercevoir qu'après 20 ans ou 30 ans, on en revient à des fondamentaux de ce que l'on sait depuis beaucoup d'années. Pour la dengue, c'est un peu la même chose. Alors certes, l'épidémiologie du paludisme a énormément changé ces dernières années parce que le paludisme qu'on disait auparavant une maladie rurale est devenue une maladie périurbaine. Dans les grandes cités africaines en particulier, eh bien, dans les zones périurbaines, vous avez le développement de la pisciculture, riziculture, production, bien entendu, de fruits, de végétaux, etc. Et donc, avec le développement de mares, de drainage, etc., qui sont les milieux, les habitats adéquats pour la pullulation de ces fameux... voilà. Alors, c'est peut-être aussi une explication à l'apparition de ce paramètre essentiel en épidémiologie, la densité humaine, et l'un des paramètres essentiels favorisant la transmission, notamment la transmission contagieuse. Je vais peut-être passer, on en rediscutera. Donc, je vous ai dit, je ne suis pas fondamentalement un spécialiste de changement climatique et santé. Je m'y intéresse s'il y a lieu de s'y intéresser. Et donc, à travers deux programmes que j'ai actuellement sur l'ulcère de Bourouli. Alors, c'est une mycobactérie, au même titre que la lèpre, on appelle ça la nouvelle lèpre, qui se développe, vous voyez, qui fait des feux bactériens comme ça qui courent sur la peau, qui détruit la peau, l'épiderme et le derme, et met les muscles à nu. Ainsi, et les gens les contractent à l'eau, au contact de l'eau et au contact de marécage. Donc on essaie de comprendre la dynamique de circulation, la niche écologique de cette mycobactérie dans ces environnements et les liens qu'il peut y avoir avec certains changements, la déforestation, le changement climatique. Nous mettons, voilà toutes les analyses derrière, c'était publié il n'y a pas très longtemps, hein, dans ce journal, 2014. Nous mettons en évidence un effet, comme d'autres l'ont mis pour d'autres maladies dans la grande région sud-américaine du changement climatique, ou au moins de certains de ces indicateurs, sur l'émergence de cas d'ulcère de Bourouli ici en Guyane, mais s'explique de manière indirecte, c'est-à-dire, c'est ce que disait Sylvie, c'est une illustration d'ailleurs de ce phénomène, ce n'est pas une action directe sur l'agent, son vecteur, etc., mais ce sont sur les conditions à la fois dans lesquelles cette mycobactérie réside à l'état naturel, hein, c'est une bactérie des environnements aquatiques tropicaux, et surtout une augmentation de la fréquentation des habitats rendus finalement disponibles et accessibles à cause de ce changement. Donc vous avez donc des effets indirects liés à l'assèchement saisonnier de certains marécages d'eau douce et leur fréquentation pour la chasse et la pêche tous les ans. Lorsqu'il y a moins de pluie ou il n'y en a plus durant la période sèche, ces habitats marécageux deviennent secs, sont accessibles pour aller récupérer des crabes en particulier, pour la population brésilienne vivant en Guyane française. Et puis, à une dimension de temps plus longue, eh bien, vous avez aussi des assèchements supplémentaires à plus long terme associés à des modifications climatiques régionales et à des anomalies négatives de pluie dans cette région qui font que ces marécages ne retrouvent pas d'eau, n'ont pas suffisamment d'eau pour se reformer et sont en situation d'assèchement et sont beaucoup plus fréquentés par des gens qui sont donc plus exposés à cette mycobactérie. Donc la relation, voilà, je vais être à temps, hein, la relation climat-maladie infectieuse a été longtemps considérée comme simple et surtout basée sur la sensibilité des vecteurs et aux réservoirs à la chaleur et la pluviométrie. Vous voyez bien qu'en incluant d'autres paramètres, d'autres variables, vous en arrivez à des vérités comme la densité populationnelle est importante, au moins pour le paludisme. Plus récemment, cette relation est apparue beaucoup plus complexe et mettant la relation, je parle changement climatique et santé et maladie infectieuse, hein, et mettant en cause bien d'autres paramètres, comme j'essaie tenter de vous le montrer. L'exemple du paludisme, endémie mondiale, dont on pourrait craindre la diffusion accélérée par le réchauffement climatique, par ses effets sur l'agent pathogène, par ses effets sur le vecteur, mais aussi, bien entendu, par les transports aériens à large échelle. Vous avez deux phénomènes, un phénomène lent. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas de conséquences du changement climatique sur ces genres de bébêtes, etc. Je vous dis qu'il y a un phénomène lent qui se superposent à des phénomènes fréquents et très rapides, comme des transports aériens à large échelle, qui peuvent se produire d'Afrique centrale vers le sud européen, voire le nord européen, en 6 heures ou 8 heures. C'est ça que je suis en train de dire. Et c'est ça qu'on arrive à mal à à séparer, en fait. En fait, le paludisme, j'ai lu certains documents, mais aussi certains rapports il n'y a pas très longtemps, je trouve ça très très bien, hein. En fait, le paludisme a plutôt tendance à régresser, notamment parce que les conditions de température dans le futur pourraient être dans des gammes de température cassant la transmission du parasite, parce que ces conditions de température ne sont pas viables pour le cycle parasitaire, et tendance à régresser les risques d'une diffusion au nord par le changement climatique, alors je dis bien pas à cause du changement climatique, pour moi, sont faibles. Et même chose pour la dengue. Donc, ça nécessite quoi? Donc, c'est un travail que vous devez tous connaître, qui est un travail de Sarah Randolph, d'ailleurs, dans le cadre d'un programme que nous avions en commun, un programme EDEN, Emerging Disease in a Changing European Environment, qui a essayé finalement de décortiquer les différents paramètres entre eux responsables de l'épidémiologie de la transmission de maladies à transmission par des tiques, d'accord, dans les régions baltes. Et vous voyez, je ne vais pas détailler, que les conditions climatiques et leur variabilité peuvent avoir d'importance sur la transmission notamment de virus transmis par ces tiques, mais d'autres variables aussi apparaissent à avoir leur importance, et notamment le déclin de l'agriculture à la suite de l'explosion du bloc soviétique, où ces provinces baltes acquièrent leur indépendance, n'ont plus finalement les ressources financières venant du grand bloc soviétique, et un certain nombre de terrains sont mis en jachère alors qu'elles étaient cultivées au préalable, et qui dit jachère dit habitat propice et favorable à la pullulation d'un certain nombre de réservoirs et de tiques pour ce genre d'agents pathogènes. Donc je vais conclure là. Moi, ce schéma là, j'ai marqué inférence causale, c'est probablement sur le thème changement climatique santé, plus peut-être changement climatique et maladies infectieuses, il y a un net besoin de réorganiser, de revoir ce que j'appelle cette inférence causale, c'est-à-dire de retravailler sur les différents paramètres et leurs anastomoses, leurs liens, dans un système tout aussi compliqué que celui-ci, avec des facteurs proximaux, des facteurs distaux, dans lequel je vous accorde que le changement climatique pourra avoir son importance. Mais nous le révélerons que si nous travaillons ensemble dans le cadre de cette inférence causale. C'est un problème majeur. Alors, ce qu'il faut retenir, il reste deux diapositives, le rôle du changement climatique reste difficile à démontrer pour les systèmes infectieux. Je me suis orienté uniquement pour les systèmes infectieux dans cette présentation. Pour moi, il est plus facile de les démontrer pour des agents libres, vous aurez compris, hein, des bactéries ou des virus, notamment, on pourra en discuter, hein, marins, tels des virus... dans les systèmes ostréicoles en particulier, pour lesquels nous avons de claires démonstrations d'un effet de l'augmentation de la température, notamment en mer de la Manche, car ils sont sous influence directe de ces paramètres bioclimatiques. Il reste plus difficile concernant des agents à transmission indirecte. Alors pour nous, c'est quoi transmission indirecte? C'est transmission par un vecteur, c'est transmission par un vecteur nécessitant aussi un ou des eaux de réservoir, où là... il va y avoir des effets exercés par à la fois les vecteurs et par les réservoirs. Probablement, peut-être, Serge, tu développeras peut-être un peu plus ça, parce que tu m'as dit que tu allais adapter ta communication en fonction de ce que j'allais dire. On n'a pas eu le temps de se voir, hein, il vit à l'autre bout du monde maintenant. Nécessité d'une compréhension au long terme et absolument comparative, multisite pour surveiller ces phénomènes à large échelle. Hein. Moi, je milite pour l'installation de long-term ecological surveys, donc des observatoires multisites. Mon institution, l'Institut de recherche pour le développement, qui est présente dans une cinquantaine de pays dans le monde, est prête à participer à ce genre de travail. Hein. Pour estimer des conséquences aux échelles auxquelles interviennent les causes. Il y a l'obligation d'une profonde remise en cause épistémologique sur le sujet de l'inférence causale, notamment sur les problématiques du changement climatique et de ses conséquences en santé, avec du multicausatif à intervenir, et des facteurs proximaux versus versus distaux qui s'entremêlent les uns, entrechoquent, je dirais, les uns les autres. Il faut absolument, ça va faire plaisir à mon ami Jean-François Toussaint, développer la physiologie des interactions. On comprend, à mon sens, pas grand-chose. On comprend la physiologie humaine, on comprend quelque chose de la physiologie, si on peut parler comme ça, d'un virus de dingue, mais l'interaction entre les deux, ça devient plus compliqué. C'est peut-être vers là qu'il faut aller. La physiologie des systèmes infectieux, agent fois vecteur fois environnement, plus agent, alors pathogène, je parle, fois humain, fois, etc., n'est pas la somme des produits initiaux. Il faut absolument inclure la surveillance entomologique, celle des écosystèmes maritimes, côtiers, du saccuicole, terrestre, dans une perspective de type long-term ecological survey. C'est pourquoi je milite actuellement, et je pense que vous êtes beaucoup convaincus ici, et donc qui demande vraiment une réflexion. Je pense qu'il y a un certain nombre d'organismes qui sont prêts à ceci aujourd'hui. Je remercie les organisateurs. Juste dire qu'en avril 2014, nous avons publié donc, avec deux collègues de l'INRA un ensemble de documents sur le thème changement climatique et ses conséquences dans trois volumes pour la science, dont celui d'avril 2014 qui concernait changement climatique et santé. Je vous remercie.
On a un temps de 5 minutes de questions. Maintenant qu'on vous a convaincu que c'était vraiment très complexe, quand on passe par l'écologie.
Merci Jean-François pour ces points précis là-dessus. Je partage pas tout à fait ton optimisme ou ta question effectivement sur la certitude de... Enfin non, tu ne l'as pas amené comme ça, mais sur la possibilité de voir le paludisme diminuer, en particulier sur la seule observation de son territoire actuel dans lequel, oui, effectivement, si les températures sont très élevées, mais elles ne le seront qu'à partir d'un certain moment, pas dans les années ou les quelques décennies qui viennent, on pourrait casser le cycle. En attendant, il risque d'y avoir ce que l'on voit sur Vibrio cholerae, c'est-à-dire une remontée progressive des fronts, ce dont tu parlais pour la leishmaniose, et on en a la démonstration justement en mer Baltique avec des augmentations du nombre de dysenteries dans ce domaine directement liées à l'élévation thermique moyenne et au cycle thermique là-dessus. Alors, comment tu le vois pour une maladie comme le palu avec des effets indirects ajoutés qui viendraient sur le pourtour méditerranéen retrouver des territoires anciens?
Alors, tu fais bien de parler de cet exemple de la mer Baltique, dont il s'agit d'un article publié il y a 2 ou 3 ans, c'est ça, mais derrière, les auteurs en question évitent, mais ça c'est aussi dû à la longueur des articles aujourd'hui, évitent beaucoup de discuter des effets confondants, et notamment sur la population, que la population de la mer, autour de la mer Baltique a considérablement augmenté ces derniers temps. Donc, augmentation du nombre d'individus, augmentation de la probabilité de rencontres s'il y a un phénomène charge portée, c'est ce qui se passe, donc augmentation des cas. Et l'article discute un peu de ça, joue sur l'effet peut-être un peu, je dirais, sensationnaliste dans le titre, sur un effet du changement climatique qui est certes, qui arrive, on le sait, hein, des collègues de l'IFREMER travaillent sur ces sujets-là, sur les côtes atlantiques et de la Manche, hein, on le sait, mais il y a aussi le problème de l'effet confondant, et l'effet confondant majeur qui est là, de la taille des populations côtières et qui, dans l'article d'ailleurs, ils auraient pu le faire, n'est pas contrôlé dans des modèles linéaires généralisés, me semble-t-il. Donc voilà, premier point. Alors, paludisme, je n'ai pas présenté ce résultat-là. Donc, c'est un travail de Kevin Lafferty qui travaille au USGS américain, et donc dans le papier initial, il analyse 460 études sur le paludisme dans le monde. Il s'est fait bien massacrer dans cet article d'ailleurs, hein. On lui a fait beaucoup la gueule, mais il montrait que sur les 470 papiers en haut, il y avait plutôt une nette régression des surfaces, des enveloppes, que plutôt une augmentation, hein. Dans une méta-analyse, il a produit ce papier ensuite, qui est modifié par rapport au papier original, et dans lequel il prend cet exemple qu'on a l'habitude de reprendre. Hein, les gens qui m'ont déjà entendu savent que je prends souvent cet exemple. Donc aux États-Unis, température donc, ici en axe X, et puis ici un pourcentage de cas de paludisme dans certaines régions et états du sud des États-Unis. Donc avec... ici une diminution, donc vous retrouvez ici sur cette petite figure, une diminution du nombre de cas de paludisme avec une très très nette augmentation de la température moyenne dans ces zones. Et pourquoi ? Tant de temps qu'on fournit un effort de surveillance et de soins, bien entendu, on intervient sur la dynamique de propagation de la maladie ou sur le contrôle vectoriel. Et tant qu'on pourra et qu'on peut assurer cet effort sanitaire, eh bien, on tente d'aller contre l'invasion du système pathogène ou de ces vecteurs. Donc, en général, c'est ce qui se passe. Donc, ce qu'il y a de dramatique dans une crise économique telle que celle que nous vivons, c'est que pour un certain nombre, effectivement, de pays et de pays en Afrique où ces maladies sont endémiques, c'est de voir effectivement des zones de propagation se développer à très large échelle. Mais autant de temps qu'il y a les moyens de la surveillance et du contrôle des acteurs principaux à la transmission, ça c'en est un exemple, ça n'a pas grand-chose à voir avec une augmentation de la température, d'ailleurs quelle qu'elle soit, dans la gamme des possibles ou supérieure. Voilà. Enfin, je pense avoir répondu à ta question, ou on pourra en rediscuter si tu le souhaites.
S'il vous plaît, si vous pouvez vous présenter, tout le monde.
Sophie Godin-Beckmann de l'OVSQ. Je voulais savoir si les récentes épidémies de chikungunya à La Réunion et dans d'autres îles ont pu donner des éléments importants ou déterminants pour affiner les modèles et notamment comprendre mieux les multicausalités de la propagation des maladies à vecteurs.
Je n'ai pas connaissance tout à fait de cette littérature parce que ces derniers temps, moi, le sujet qui m'intéresse actuellement, c'est le lien biodiversité et maladies infectieuses. Donc, je le reconnais, donc à tort, toute la connaissance bibliographique, même si des gens dans notre UMR à Montpellier peuvent travailler sur ça. Alors, moi, je fais une première observation. C'est une observation que je faisais à Serge Morand hier. Ce que je remarque, c'est que dans le domaine de l'entomologie médicale, les gens qui travaillent en entomologie médicale, en fait, ne travaillent que sur le vecteur. Nous, on est 120 dans notre équipe. Vous avez une trentaine d'entomologistes médicaux, mais ils travaillent que sur l'insecte même. Je ne parle pas du vecteur, ils travaillent sur l'insecte. Ils ne travaillent pas sur l'interaction. Donc, moi, ma réponse serait qu'on focalise beaucoup sur le vecteur, moins sur l'interaction entre le vecteur et le protozoaire, le vecteur et le virus. Il semblerait que non, mais probablement ou certainement quelqu'un dans la salle peut apporter des éléments supplémentaires. Mais sur l'apparition du chikungunya, c'est une question à laquelle je dois répondre ce soir, sur chikungunya et les cas de chikungunya de dengue dans le sud de la France. D'abord, il y a des conditions d'habitat qui peuvent être quasi identiques au nord de l'Afrique, mais ça n'a rien à voir avec le changement climatique. Ça est dû à la propagation de ces insectes vecteurs dans les coffres de voitures, par les rails, par les containers sur les rails et puis par les autoroutes. Hein. Enfin, voilà, tous les modèles actuellement, même, c'est même pas des modèles, ce sont des données, vont vers là. Alors après, le changement climatique qui crée des environnements favorables à la faveur d'une augmentation de température, d'une modification pluviométrique, certes, mais aller dans le bassin de la Loire, dans la vallée de la Loire, il n'y a pas besoin d'un changement climatique, je peux vous assurer, pour qu'il y ait des conditions d'habitat déjà depuis 50 ans, depuis 100 ans, depuis 150 ans, pour avoir un certain nombre de pathologies tropicales.
Donc c'est le sujet de toute la journée de demain, donc je vous invite tous à venir.
Oui, Claude Zandé, hydrologue. J'ai beaucoup aimé votre exposé, notamment parce qu'il n'était pas trop simpliste. Et il me paraît, bien que je ne sois pas spécialiste des relations climat et santé, il me paraît logique que s'il y a des résultats négatifs sur la santé, il peut y en avoir aussi des positifs, puisque c'est en fait d'autres équilibres qui se créent, et enfin des équilibres dynamiques, et par conséquent, l'un et l'autre doivent s'observer. Et c'est quelquefois dommage de n'en observer qu'un. Et si on reprend simplement un petit peu l'histoire des 10 000 dernières années, il ne faut pas oublier dans l'histoire donc récente de l'humanité, l'Holocène, c'est un réchauffement climatique. Hein. Si la civilisation et la néolithisation n'ont eu de, de possibilités, enfin, s'est développé qu'à partir d'une période de réchauffement climatique. Et dans l'histoire récente, c'est l'optimum climatique du Moyen-Âge qui a été à période extraordinaire de grands défrichements, etc. Alors que le petit âge glaciaire, avec des températures plus basses, a été une période très difficile. Donc je pense qu'il faut qu'on a tout à gagner à nuancer le discours et que, encore une fois, ce n'est pas avec des mauvais arguments qu'on défend une bonne cause. Et je vous remercie beaucoup pour cet exposé que j'ai écouté avec beaucoup de plaisir. Merci.
Bien. Maintenant, on va... Vous voulez...
Oui, il y a un problème. Pour juste, oui, Robert Vautard, Institut Pierre Simon Laplace. Je voulais juste réagir sur le fait que, pardon. Oui, je suis climatologue. Non, je voulais juste dire que c'est vrai que l'Holocène est chaud, mais la question qui est là, c'est une question de vitesse de changement, qui est intéressante. Bon, j'avais une autre question, mais je la poserai plus tard.